dernière fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Pas après cet été, je t'aurais oublié. Que la vie continue, que la chance soit avec toi. Moi, mon corps ne connaît que toi. Mais la vie est si courte et la guerre si cruelle. Si l'on m'offre notre route, je partirai avec elle. Mon amour ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier, mon amour ne reviens.
La console est...
Oui. Alors...
Bonjour, de retour
bonsoir,
sur l'antenne.
Ouais, de retour sur l'antenne.
Canu, toujours présent. Mais écoutez, en fait, un crétin avait éteint la console. Donc bon,
et un crétin ne l'avait pas rallumé.
Allez, on prend les mêmes et on recommence.
On recommence.
Et donc, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h04, on est un peu à la bourre à cause de ces petits problèmes techniques. C'est l'heure du Canu Info de ce lundi 1er mai, la grande fête des travailleurs.
Avec ce soir, à l'international, on va vous parler de l'attaque violente au Parlement par l'extrême droite en Macédoine. Puis après, on va vous parler de la répression en Turquie. On va vous reparler des grévistes de la faim prisonniers palestiniens. Ensuite, on ira au Venezuela, où on va vous parler de la crise au Venezuela et aussi de la répression. On vous parlera de, là aussi de l'agression, de l'attaque contre un représentant de la gauche social-démocrate en Belgique. Puis, on ira au national, avec l'interdiction de vote qui a été faite à des dames voilées en France, la première tour des présidentielles. Ensuite, on va aller voir un peu, faire un état des lieux de la répression sur les manifs de l'entre-deux-tours. Ensuite, on va étudier un petit peu qu'est-ce que votent les gendarmes et les policiers. Ensuite, nous irons étudier la question antiterroriste dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis au local, on ira voir un petit peu ce qui s'est passé au local d'Emmanuel Macron dans le 2e arrondissement à Lyon. D'ailleurs, on pourrait peut-être vous donner l'adresse. Comme ça, vous aurez constaté de vous-même. Ouais, ou, ouais. Voilà. Et puis, on va faire notre dossier, bien entendu, sur le 1er mai, la fête des travailleurs, et ce sera en fin d'émission.
Et on passe tout de suite, justement, à l'international. Comme c'est la grande fête des travailleurs aujourd'hui, on prévient tout de suite, l'émission sera ponctuée de tout un tas de chansons révolutionnaires, un petit peu folkloriques pour certaines.
Donc à l'international, en Macédoine, jeudi après-midi, il y a une centaine de militants du mouvement pour une Macédoine unie qui ont attaqué l'Assemblée nationale en faisant une centaine de blessés, dont 10 députés de l'opposition social-démocrate et albanaise, avec quand même une députée qui a été traînée par les cheveux dans l'Assemblée, un député de l'Alliance des Albanais qui est entre la vie et la mort, un autre qui est sorti de l'Assemblée en sang. Donc l'attaque visait l'opposition et a eu lieu juste après l'élection à la présidence de l'Assemblée d'un député de la coalition entre l'Alliance social-démocrate de Macédoine et des partis albanais. Donc le mouvement pour une Macédoine unie fait partie des organisations patriotes qui manifestent depuis début mars presque tous les jours, qui sont liées au VMRO-DPMNE, le parti nationaliste conservateur qui est au pouvoir en Macédoine depuis 2006. Ces organisations patriotes sont aussi bien liées à la police, puisqu'il n'y a eu aucune résistance des policiers sur place. Les systèmes de sécurité pour verrouiller l'accès au Parlement n'ont pas été activés. Et le contrôle du bâtiment n'a été repris qu'au bout de plusieurs heures par des unités spéciales. Aucun assaillant n'a été arrêté. Le VMRO-DPMNE, donc ce parti proche de ces organisations patriotiques, c'est le parti au pouvoir depuis 2006, mais qui a perdu sa majorité parlementaire aux législatives de décembre 2016, au profit donc d'une coalition d'opposition social-démocrate qui aurait dû pouvoir donc constituer un gouvernement. Mais le parti nationaliste conservateur empêche la formation du gouvernement et bloque toutes les institutions ces derniers mois. Donc bientôt, même les municipalités ne vont plus fonctionner puisque les élections n'ont pas pu être convoquées.
Là-bas, 2017 n'a pas eu lieu.
Exactement. En fait, ce parti est aux abois depuis 2015, où il y a eu la révélation d'un système d'écoute téléphonique sur plus de 20 000 militants, journalistes, juges, petits fonctionnaires, qui étaient contrôlés directement par le Premier ministre. La révélation d'un système de corruption généralisé, d'un système de blanchiment d'argent par le parti, du contrôle qui s'exerce sur la justice et des pressions exercées sur les médias et l'implication dans plusieurs affaires criminelles. Donc toutes ces affaires-là avaient donné lieu à des grandes manifestations au printemps 2015 et aux législatives, ils sont toujours en tête mais n'ont plus de majorité Et voilà, c'était l'attaque du Parlement macédonien. Et
quelle salade !
Ouh, bim ! Et sans transition, on va en direction de la Turquie après cette bonne blague.
Voilà, kebab.
Donc en Turquie, ce lundi, donc, la fête des travailleurs s'est soldée par l'arrestation d'au moins 200 manifestants qui tentaient de se rendre sur la célèbre place Tahrir. Donc à la mobilisation annuelle des travailleurs, la police turque a répondu comme à son habitude par des tirs de LBD et de lacrymo. Donc pour rappel, depuis le putsch manqué de juillet 2016, 40 000 personnes ont été arrêtées et 120 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions. Et depuis la victoire d'Erdogan le 16 avril, donc au référendum qui lui confère désormais un pouvoir au moins totalisant, si ce n'est totalitaire, la répression n'a fait qu'augmenter. Donc en deux semaines, il y a près de 12 000 fonctionnaires qui ont été révoqués et au moins un millier de personnes arrêtées. Nombreux médias ont été censurés. Dernière mesure liberticide en date, le site Wikipédia a été complètement suspendu ce week-end. Donc face à cette répression, on salue le courage de ceux et celles qui aujourd'hui encore résiste à Ankara et ont bravé cette répression pour se mobiliser pour le 1er mai. On n'oublie pas, on ne pardonne pas et gare à la revanche.
Gare.
On va aller en Palestine où on va vous reparler de la journée des prisonniers et de la grève de la faim entamée par pas mal de prisonniers. Et donc là, selon le gouvernement, un ministre palestinien, 300 détenus palestiniens en grève de la faim depuis près de deux semaines dans les prisons israéliennes ont accepté de se nourrir sans avoir rien obtenu de leurs revendications. Et d'après ce même ministre, il n'est pas question de négocier. Alors que l'autorité palestinienne et le club des prisonniers palestiniens ont quant à eux assuré que 1500 prisonniers qui exigeaient une amélioration de leurs conditions de détention continuent leur grève de la faim. Gilad Erdam, ministre israélien de la sécurité intérieure, a également critiqué l'association des médecins israéliens qui exerce, je cite, des pressions sur les médecins pour qu'ils n'appliquent pas la loi autorisant à nourrir des prisonniers contre leur volonté à l'aide de transfusions. Donc pour rappel, le 17 avril, environ au moins 1500 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim collective inédite depuis des années. À l'appel de Marwan Baghouti, leader de la deuxième intifada condamné à la perpétuité. L'administration pénitentiaire a confisqué tous les biens qui se trouvaient dans les cellules des grévistes et a commencé à transférer des détenus grévistes vers d'autres prisons. Désolé, j'ai du mal. Cette grève de la faim illimitée est lancée à l'occasion de la célébration de la journée des prisonniers observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de 40 ans. Donc le but de cette grève de la faim, c'est de mettre fin aux abus. Mettre fin à un système judiciaire à deux vitesses qui garantit une impunité pour les Israéliens ayant commis des crimes contre les Palestiniens et criminalise la présence et la résistance palestinienne. Les prisonniers palestiniens souffrent de tortures, de traitements dégradants et inhumains et de négligence médicale. Certains ont été tués en détention. Et en France, la solidarité internationale s'exprime depuis le 24 avril où Georges Ibrahim Abdallah, donc pour rappel, c'est un prisonnier de l'État français depuis 33 ans, qui est libérable depuis 1999, mais toutes ces demandes de libération ont été rejetées suite à des pressions de l'État israélien partenaire de la France. Et donc Georges Ibrahim Abdallah et ses camarades basques ont entamé une grève de la faim le 24 avril, une grève des plateaux en solidarité à ces prisonniers palestiniens. Ils sont accompagnés dans cette grève par plusieurs prisonniers marocains, algériens, tunisiens et co-détenus solidaires. Donc voilà, courage à tout cela, toute cette solidarité internationale. Et puis on espère que Georges Ibrahim Abdallah et les autres vont être libérés et que les Palestiniens aussi.
Voilà. Aussi, ouais. Voilà. Aussi, comme tous les prisonniers politiques, sachant que c'est la comme plupart des prisonniers finalement. Donc, on enchaîne donc avec le Venezuela où, et oui, il y a une crise et cette crise est plutôt mal décrite comme d'habitude par les médias occidentaux et par les dirigeants occidentaux. Alors aujourd'hui, c'était le 1er mai au Venezuela aussi, et oui, mais ce 1er mai, il a été volé aux travailleurs par ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire cette crise qui oppose les militants, les partisans du gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition. Opposition qui, pour information ou pour rappel, est constituée à son sommet de la grande bourgeoisie vénézuélienne et sa base sociale étant centrée sur les classes possédantes. Alors, pourquoi est-ce que ce 1er mai est volé aux travailleurs ? Depuis un mois, le Venezuela est le théâtre de manifestations de l'opposition et de contre-manifestations de soutien du gouvernement, suivi de violents, très violents affrontements ayant déjà causé la mort de 26 personnes, à la fois par les forces de l'ordre, mais aussi par des groupes armés favorables ou défavorables au gouvernement. L'un des points de départ de cette mobilisation ou de ces mobilisations et de ces affrontements, notamment, hein, ça a été le 30 mars dernier, la décision du Tribunal suprême de justice, qui est acquis à Nicolas Maduro et son gouvernement, de déposséder l'Assemblée nationale, qui, elle, est aux mains de l'opposition, de ses prérogatives et de lever l'immunité des parlementaires. Les autorités vénézuéliennes et Nicolas Maduro ont donc fait marche arrière, mais ont condamné Henrique Capriles, candidat de l'opposition aux deux dernières élections présidentielles, à 15 ans d'inéligibilité. Les élections régionales sont également reportées, tout comme les élections syndicales dans la sidérurgie et dans le secteur pétrolier.
2017 a toujours pas lieu partout ailleurs dans le monde, c'est incroyable.
Comme quoi, finalement, hein, un bon dirigeant autoritaire, ça peut marcher. Et un certain nombre d'organisations politiques, notamment communistes d'ailleurs, doivent se plier à des conditions draconiennes pour avoir une existence légale ou disparaissent. Hein. Les groupes d'extrême-gauche et d'ultra-gauche vénézuéliens s'en prennent plein la gueule, il faut le savoir. Bon, mais l'opposition alors, puisque c'est finalement celle que nos chers dirigeants occidentaux acceptent, en tout cas mettent en avant et préféreraient visiblement au pouvoir du Venezuela. Eh bien, elle est dirigée par des ultralibéraux, hein, des grands capitalistes, la grande bourgeoisie, liée aux États-Unis, au niveau international. Les États-Unis, qui, rappelons-le, et c'est son histoire, hein, en Amérique du Sud, n'a jamais accepté la présence d'un dirigeant soutenu par des classes populaires en Amérique du Sud, et là en l'occurrence au Venezuela, Hugo Chavez en 2002. Rappelons que cette dite opposition, lors du coup d'État avorté de 2002, avait destitué immédiatement toutes les autorités et exercé une répression immédiate sur la population. Rappelons également que cette même opposition, qui était au pouvoir depuis des années, notamment en 1989, avait provoqué la mort d'un millier de personnes qui se révoltaient contre l'application féroce d'un plan d'ajustement structurel, les fameux PAS du FMI, le Fonds Monétaire International. Alors en conclusion, on pourrait affirmer que les classes populaires vénézuéliennes n'ont rien à gagner de la dérive autoritaire du gouvernement, ni de la tentation insurrectionnelle de l'opposition.
Et peut-être même de ce gouvernement tout court.
N'ont rien à affirmer de ce gouvernement.
Ni
même d'un gouvernement. En tout cas.
Je ne savais pas que tu étais chaviste quand on t'a laissé le sujet.
L'Alliance bolivarienne.
Affirmons notre solidarité dans ces conditions difficiles à toutes les forces anticapitalistes qui en prennent plein la gueule dans ce pays, qui tentent de se frayer un chemin indépendant entre le gouvernement et l'opposition, dans une période d'ailleurs où l'inflation est la plus élevée du monde au Venezuela et où les médicaments et l'alimentation commencent sérieusement à manquer et où la répression est très féroce envers l'intégralité des opposants politiques.
Alors juste avant de continuer, on va faire un petit détour dans le monde réel et dans le très local. Et on me signale à l'instant une arrestation sur la place Satonnet. Donc je préviens tous les copains qui peuvent nous entendre de faire tourner l'info et de faire gaffe à vous, quoi. Et dès qu'on en sait plus, bah, j'attends les messages, je vous tiens au courant. Dans les faits, bon, on va terminer avec l'international. En Belgique, s'il s'est passé un monsieur...
On la remet ?
Non, un monsieur qui s'appelle Raoul Edebourg, je prononce très mal le belge, député du Parti du Travail belge, donc qui est en fait l'équivalent en fait du Parti de Mélenchon pour la Belgique, ce monsieur s'est fait poignarder quand il a essayé de faire son meeting aujourd'hui. Et donc voilà, par un opposant politique en fait qui est considéré comme n'étant pas quelqu'un enfin la justice belge l'a considéré comme parfaitement conscient de ses actes, et donc voilà. Donc on en rentre dans une nouvelle ère en Europe où les militants politiques d'extrême gauche se font sûrement planter par des militants d'extrême droite publiquement pour fêter le 1er mai. Et donc voilà. Et on va continuer pour passer au national.
Avec un petit avertissement aux différents oppresseurs qui ne perdent rien pour attendre.
Gare à la revanche.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La monnaie est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse,
au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça prend dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Alors cette revanche qui aura lieu quand tous les pauvres s'y mettront, c'est bientôt la revanche, c'est bien sûr la revanche sur la Commune de Paris.
MacMahon, on n'oublie pas, on pardonne pas.
Et Pierre non plus, puisque Pierre camarade nous a rappelé à la réalité de la répression aujourd'hui des mouvements sociaux et à l'interpellation d'un camarade place Satonnet, on peut aussi se féliciter d'une petite victoire qui rappelle la Commune, puisque le drapeau français bleu, blanc, rouge, vilain drapeau imposé par Lamartine et tous ses compères, eh bien, a été destitué pour être remplacé par le drapeau flamboyant et noir de l'anarchisme.
Et au-dessus de la mairie du premier arrondissement.
Les photos seront bientôt en ligne.
Voilà.
Et une victoire du prolétariat.
C'est ça. Et donc, sans transition, maintenant, puisque le vote est le garant de la démocratie et de l'universalité de la justice, eh bien, puisque en France, des gens ont été empêchés de voter, on peut le dire, nous ne sommes pas dans cette fameuse démocratie qui nous fait tout rêver.
Mon Dieu. Ça, on n'est pas content, nous. Hein.
Voilà, on a beaucoup parlé des irrégularités là, pendant le premier tour de la campagne, du vote. Et en fait, en l'occurrence, il y a un truc vraiment, vraiment, vraiment scandaleux, c'est qu'à Paris, à Plaisir et à Nice, il y a des femmes portant le foulard qui ont été empêchés de voter lors du premier tour. Et dans un bureau de vote des Yvelines, l'assesseur a en effet conditionné l'exercice du droit de vote au retrait du foulard. Ce cas a formellement refusé l'intéressé et du coup, elle n'a pas pu voter. Et alors qu'on s'apprête à célébrer le 72e anniversaire du premier vote des femmes en France, ces affaires viennent nous rappeler qu'il reste bien du travail pour garantir qu'aucune femme ne soit écartée de la vie publique. Et c'est pas gagné.
Qu'on n'a pas obtenu grâce au vote, hein, je le rappelle.
Oui, quand bien. Et c'est pas gagné, puisque c'est officiel, la France compte désormais un nouveau signe religieux ostentatoire. Et donc ce signe, c'est le bandeau de tête porté avec jupe longue. Ça fait bizarre un peu, mais bon voilà. Dans une décision rendue mardi 18 avril 2017 donc, par la Cour administrative d'appel à Paris,
la
Cour a statué et refusé le recours déposé par une ex-collégienne qui, à l'époque, avait 15 ans, exclut son établissement en avril 2013 pour ce motif. Donc, les faits, c'est en mars 2013, les magistrats du Conseil d'État s'étaient très sérieusement penchés sur la largeur du bandeau par la collégienne, la longueur de sa jupe et même la couleur de ses vêtements. Tout cela en vertu de la loi du 15 mars 2004 prohibant, je cite, le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Donc voilà l'histoire, il y a eu le zèle d'un prof d'histoire géo syndiqué à la FSU au SNES qui a trouvé que c'était pas du tout admissible ce bandeau et cette jupe, donc il lui a fait des affaires.
Toujours à l'avant-garde.
Voilà. Ah ouais, bon, n'est-ce pas ? Par contre, les marques capitalistes n'ont pas été interdites dans l'enceinte des établissements scolaires, et bien au contraire, malheureusement.
Et bizarrement, aucune sanction ne lui est signifiée et aucun conseil de discipline n'est alors convoqué, ce qui aurait dû être le cas s'agissant d'une atteinte suffisamment grave à la laïcité pour justifier un recours du ministre devant le Conseil d'État. Mais elle est pourtant chaque matin escortée jusqu'au bureau des surveillants où on l'isole derrière un casier avec interdiction de parler à ses camarades et d'aller en récréation. Les arguments sont particulièrement ridicules, expliquant que le bandeau de la jeune fille l'empêche d'entendre en cours ou que la longueur de sa jupe met en danger les autres élèves qui risquent de se prendre les pieds dedans. Non, mais c'est véridique.
Les écouteurs sont conseillés. Hein,
voilà. Et pendant les 4 mois que va durer la mise en isolement de la jeune fille dans son collège, elle va être complètement humiliée, discriminée, etc. etc. isolée. Le rectorat de Créteil a entrepris d'étoffer le dossier, ajoutant une tentation d'intrusion dans l'établissement scolaire avec un voile et des absences le vendredi pour aller à la mosquée. Des faits pourtant contredits, attestation à l'appui par la défense de la jeune fille, qui se verra aussi contrainte de produire des photos la montrant dans une jupe écarlate assortie à son bandeau quand le rectorat prétend qu'elle s'habille tous les jours en noir. Donc, ce sont des... Ce sont des, alors je cite, des sages.
Il y a plus de religion dans chez Gothic que là.
On a désigné des sages, donc ça c'est vraiment le mot qui a été employé. Qui
des singes. Qui t'as mal recopié.
Charge.
T'étais bourré.
Quoi ?
Des singes.
Des singes, oui, des singes qui le 19 mars ont été chargés de dans le cadre du référé liberté de statuer, et donc le délibéré est contradictoire, mais de façon hallucinante. La loi de 1904 précise que sont interdits les signes et tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, telle que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on le donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. Mais la jeune fille n'est pas... excusez-moi, mais la tenue de la jeune fille n'est pas ostentatoire. Donc ça, c'est ce que dit la Cour. Par contre, le fait qu'elle refuse d'y renoncer prouverait que c'est bien ostentatoire. Donc voilà, c'est merveilleux. Donc la justice française, la justice d'État, voilà, encore une fois, a frappé. Et on espère qu'on va tout dézinguer tout ça, parce que c'est vraiment c'est scandaleux.
Non, mais on n'en parle pas assez, mais Gotti, qui est la version sataniste, qui vénère quand même Satan. Enfin, c'est une religion quand même à part, qui est reconnue dans certains États, notamment les États-Unis. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'interdit pas où on en est ?
Je sais pas.
Parce qu'on a autre chose à dire, en fait.
Et
d'ailleurs.
On n'en parle pas parce que ceux qui sont visés actuellement, c'est les musulmans, et pour une simple bonne raison, c'est que c'est une stratégie de pouvoir qui considère désigner un ennemi intérieur et faire de la politique qu'on veut en disant que le problème n'est pas là, le problème est dans cet ennemi intérieur, dans cet
et dans les bandeaux,
etc.
Dans les bandeaux, le problème est dans le bandeau, disons-le.
Et les jupes longues.
Ça nous fait encore plus de raisons de nous mobiliser dans cet entre-deux tours.
Et de se rappeler quand même que parmi les conquêtes de la liberté qui restent à venir, le fait que les jeunes filles puissent venir voiler à l'école, c'en est une, et il faut réclamer l'abrogation de ce que la commission Stasi avait fait comme travail, et liberté de s'habiller pour les jeunes filles dans l'école française, point barre.
Exactement. Et du coup, je disais, ça nous fait de bonnes raisons de se mobiliser. Donc, il y a eu pas mal de manifs un peu partout en France dès l'annonce des résultats du premier tour des élections présidentielles. Également, beaucoup ce jeudi 27 avril à Rennes, à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux et même à Lyon, c'est dire. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à refuser de se faire gouverner par des flics, des patrons et des fachos. Qu'on ne veut pas tellement plus d'un mec qui entend détruire nos conditions de vie par ordonnance que de Marine Le Pen. Par contre, ce qu'on a bien senti aussi dans ces manifs, dans les manifs de ces derniers jours, c'est que les keufs et la justice sont chauds pour bien nous réprimer et nous faire avaler la pilule de cette élection pourrave par tous les moyens. Donc on a fait un petit top 3 des plus belles actions qui nous laissent présager un beau quinquennat.
Voilà.
Quinquennat, j'ai du mal à le dire, moi ça passe toujours pas. Donc à Rennes, jeudi, un motard a braqué un manifestant avec son gun, comme ça, en normal, sans se démonter. Et la préfecture s'est félicitée du sang-froid de son gardien de
bâtiment. Et quand on voit la vidéo, on voit qu'il a vraiment un sang-froid.
Ouais, mais c'est ça,
de ouf. Stable, hein,
il marche avec Kina. Ouais. Hein.
La vidéo qui est disponible sur le site des copains rennais qui s'appelle Manifeste, je crois.
Il y a des liens sur Paris Lutte Info, ouais, Rébellion, voilà. Vous trouverez,
voilà.
Pas de problème.
En tout cas, c'est une belle scène. À Bordeaux, alors là, c'était ce jeudi, un CRS qui explique gentiment à un manifestant, donc je cite, « Quand Marine, elle va nous armer, on va vous buter ». Donc c'est pareil, hein, ça présage...
Gros ouais, programme.
Parce que les CRS, les gendarmes mobiles, seraient pour Marine Le Pen, de manière générale. On verra ça tout à l'heure.
Ah, le teasing de malade. Et alors, c'est moins rigolo. Enfin, même si les deux autres trucs n'étaient pas tellement drôles. Mais à Toulouse, il y a un camarade qui est passé en comparution immédiate ce mardi, suite à la manif de dimanche soir. Et il a pris 9 mois ferme avec mandat de dépôt. Donc, c'est-à-dire qu'il est parti direct en zonzon pour dégradation volontaire et participation à une manifestation non autorisée avec le visage dissimulé. Donc non seulement les keufs semblent penser qu'ils ont un blanc-seing avec ces élections, mais... mais a priori, la justice aussi. Donc on a été habitué hein, déjà pendant la loi travail à cette justice de classe et d'abattage. Là, ça semble être quand même une bonne boucherie qui s'annonce. On espère d'ailleurs que tous les copains et copines qui se sont fait interpeller vont sortir vite. Par ailleurs, un peu partout, on a vu des belles scènes de jetées de manifestants. Il y a 2-3 vidéos sur Paris qui sont pas mal, donc une discipline bientôt olympique. À Lyon aussi, c'est pareil, il y a eu quand même une dizaine d'interpels en fait depuis dimanche soir, des contrôles d'identité à tout va.
Des menaces de mort.
Des menaces de mort, ça nous fait pas oublier que les violences policières, c'est tous les jours et bien plus dans les quartiers populaires et que ça date pas de ces élections-là, mais avec ce que prévoient les deux candidats en maintien de l'ordre, on sent qu'on est définitivement bien dans la merde et que c'est pas près de s'arrêter.
On a basculé dans l'état policier.
Sachant que oui, voilà, c'est-à-dire que les policiers ont de plus en plus de pouvoir, hein, que depuis les attentats, les salves d'attentats ou dits attentats en tout cas, les policiers ont de plus en plus de pouvoir et ces pouvoirs, eh bien, ils les utilisent puisqu'on leur donne. Et ça tombe bien.
Incroyable transition.
Mais oui, ça tombe bien, puisque figurez-vous que chez nos amis, les gendarmes mobiles, vous savez, les gendarmes mobiles, donc ce ne sont pas des CRS, mais ce sont un peu comme les CRS. Ce sont ceux qui, dans les manifestations, nous chargent, qui sont casqués avec des boucliers, qui nous en foutent plein la gueule. C'est les bleus foncés, voilà. Et les CRS, c'est plutôt bleu, blanc, rouge et plutôt blanc. Et dans la cambrousse, hein, quand vous vous faites casser la gueule par des gendarmes mobiles, par des gendarmes casqués, bon, c'est des gendarmes mobiles.
Aussi, il y a beaucoup de gendarmes.
Ah oui, non, mais dans la cambrousse, c'est plutôt les GM. Et en ville, dans les grandes villes en tout cas, il y a les GM et les CRS. Voilà, il y a les deux. Et alors, la petite spécificité des GM, donc de ces gendarmes mobiles, c'est qu'ils habitent dans des casernes. Et que de ces casernes, eh bien, dépendent des bureaux de vote. Et que de ces bureaux de vote, on peut eh bien, avoir un certain nombre de résultats. Alors, pour une seule caserne de France, il y a un bureau de vote spécifique pour les gendarmes mobiles, c'est Versailles. Alors Versailles, le bureau de vote numéro 10, hein, qui est donc une exception, c'est le plus gros contingent de gendarmes mobiles de France, la caserne de Satory. Seuls les gendarmes mobiles et leurs familles, quand même, ils votent. Et donc, il y a 48,27% de votes de suffrage exprimé pour une certaine Marine Le Pen. Donc, quasiment un vote sur deux exprimé qui est pour Marine Le Pen. Et dans les autres dans les autres casernes, dans les autres villes. Donc c'est des quartiers où les casernes, les gendarmes des casernes vont voter. Donc à Nanterre, par exemple, on a un 35,16% pour Le Pen, sachant que c'est mélangé avec d'autres personnes de la population et du quartier. Donc on est juste sur des scores très très hauts. À chaque fois qu'il y a une caserne de gendarmes mobiles, eh bien les votes sont très très hauts. On pourrait continuer. Il y a Duny en Seine-Saint-Denis, c'est 31% pour Le Pen. On vous invite à aller voir la suite.
T'aurais des stats de casernes en PACA?
j'ai pas tout noté, mais je vous invite à aller voir sur Paris Lutte Info notamment ce petit résultat. Et d'ailleurs en 2015 c'était exactement la même chose, hein. Au régional, les gendarmes mobiles, là où il y avait leur caserne, et bien les bureaux de vote, c'était une explosion pour Marine Le Pen. Et donc on se demande s'il y a un lien de cause à effet.
Non, sûrement pas.
Non, je m'égare.
Et bon, malheureusement ça serait pas forcément mieux avec notre futur oppresseur Macron, parce que un peu comme Janus avec son côté Robéru et Alain Madelin, on sait que si ce Macron il bouffe à tous les râteliers, pour de vrai il essaye de nous la faire à l'envers. Alors comme exemple, il y a son odieux programme sur la soi-disant lutte antiterroriste, et où on voit que s'il avait tenté de se faire passer pour un type un peu digne en appelant la colonisation par son nom, crime contre l'humanité, en y réfléchissant, on se rappelle encore mieux comment il avait retourné sa veste un jour plus tard devant les cris indignés des nostalgiques de l'Algérie française. Donc déjà, Macron, faut quand même rappeler que c'est comme Philippot, c'est un type qui s'est revendiqué de chevènement et qui, en 2007, critiquait la gauche défaite parce que, justement, selon lui, elle ne savait pas parler efficacement de sécurité. Donc aux portes du pouvoir, hein, quoi qu'il est encore capable de perdre, Macron compte bien, comme ses mentors Hollande et Valls, continuer à instrumentaliser le terrorisme pour supprimer les libertés. Par exemple, il veut faire interdire le cryptage dit de bout en bout, comme avec Telegram par exemple, ou tout du moins abaisser le niveau de cryptage et mettre des portes d'accès, des backdoors, qui ouvriraient la possibilité d'un espionnage de masse. Donc ça, ajouté au fichier de tous les Français qui a été mis en place par Hollande, ajouté à la vidéosurveillance, et on comprend mieux la fascination de Macron pour le tout numérique et l'utilisation tyrannique qu'il compte en faire. Donc renforcer drastiquement les moyens de renseignement de l'État français sur sa population, hein, pour en faire une ennemie intérieure. Big Macron is watching you. Alors par contre, pas un mot sur l'état d'urgence et sur toutes les politiques islamophobes qui en ont résulté. Rien sur les perquisitions indues et sur les arrestations arbitraires, rien sur les interdictions de manifester, rien sur la déchéance de nationalité, malgré que quand il avait quitté le gouvernement, c'était à ce propos-là qu'il avait prétendu le faire, et pas du tout pour se présenter au présidentiel. Alors en Syrie, par contre, ce Macron sorti du chapeau de la bourgeoisie, il est beaucoup plus loquace.
Et de Gérard Collomb.
Il est beaucoup plus loquace et il veut renforcer les interventions françaises. Donc plus de bombes, plus de barbouzes, plus de néocolonialisme.
Plus de thunes pour les vendeurs d'armes.
C'est pote. Et il nous explique d'ailleurs qu'après l'attaque au gaz d'Assad, qu'il faut parfois faire la guerre pour avoir la paix.
Macron, mais c'est merveilleux, quoi.
Et c'est pour ça qu'un nouveau surnom lui est échu, Macaroni Lantique.
Mac Macron.
Ni oubli ni pardon.
On pardonne pas.
Voilà. Donc nous, on aimerait lui poser la question. Et s'il faut faire la guerre pour avoir la paix, les autres fois, c'est quoi? Alors du coup, c'est faire la paix pour avoir la guerre. Donc c'est tout naturellement, hein, suite à ce genre de replace totalement hallucinante, qu'il veut augmenter le budget de l'armée et le porter à 2% du PIB. Alors, on comprend mieux pourquoi Macron, le bourgeois...
Mais c'est l'OTAN qui demande aussi, hein.
Vu qu'il a fait un peu ses études à l'American Foundation...
Mais il va économiser sur quoi alors s'il augmente le budget de l'armée?
Enfin.
Oh là là, mais on se demande.
Ça, on voit que tu veux pas travailler le dimanche, hein.
Voilà, donc on comprend mieux pourquoi il a essayé d'être flou, d'être vague sur son programme impérialiste et militariste, parce que pour un mec qui tenait absolument à faire voler en éclats le clivage entre progressistes et conservateurs d'un côté, hein, et puis comme avec sa camarade Marine Le Pen, il essaye d'avancer masqué, au contraire même de cette image qu'il veut donner, Macron et ses maîtres bourgeois, c'est l'essence même du conservatisme, qui est fabriqué toute pièce pour garantir la propriété bourgeoise, et qui est absolument aligné sur les projets les plus réactionnaires des classes dominantes et de l'impérialisme français. Et nous conclurons par dire, il faut s'entraîner, à bas Macron, démission. Voilà. Voilà.
Donc il est 19h39, on est toujours sur 102.2 Radio Canu. Et visiblement, des Lyonnais et des Lyonnaises ont lu le programme d'Emmanuel Macron.
Mais avant de passer à l'actu locale, on va peut-être écouter une petite chanson qui nous rappellera
Pour la transition.
Les heures glorieuses de
Est-ce qu'on a le temps par rapport à... Okay.
Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau, rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau, rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus.
Juste pour compléter sur Macron, il y a un des trucs extrêmement importants dans la politique intérieure qu'il a prévu de mettre en place, c'est notamment une sorte de super, enfin au nom de la lutte contre le terrorisme, une sorte de super air police, un nouvel état-major en tout cas qui serait directement sous les ordres du président, donc de lui, et qui réunirait quand même en même temps les services secrets, les services de l'armée, donc l'intérieur, l'extérieur, mais aussi les transports, la santé et l'industrie. Donc l'ensemble de ces services serait, il y aurait une sorte d'état-major qui fusionnerait tout ça et qui répondrait directement à ses ordres. Si vous, enfin, j'ai lu la SF, il y avait des trucs qui étaient à peu près équivalents et ça faisait pas rêver. Quoi.
Ouais. Et qui va semer la guerre récolte déjà la colère.
J'ai envie de dire, il l'aura pas volé du coup. Alors du coup, pour l'info locale, on va surtout parler du 1er mai. On voulait quand même revenir sur les atermoiements de Bruno Bonnel. Donc, alors Bruno Bonnel, c'est qui ?
Bibi.
Eh bien, c'est le référent départemental dans le Rhône et la métropole de Lyon d'En Marche. Et Bruno est très malheureux, tellement malheureux qu'il a dû aller chouigner dans les colonnes du Progrès après que la vitrine du local de campagne a été la cible de projections de peinture ce vendredi.
Oh non, le pauvre.
Et là, Bruno,
local.
Il a compris d'un coup.
C'est pas écolo,
c'est un ennemi de l'art en fait.
Ça va plus du tout, du tout. En fait, personne peut les saquer, les macronistes, et il vient juste de s'en rendre compte. Ils se font martyriser à tout va depuis qu'ils sont passés au deuxième tour, dans la rue, quand ils diffent et tout et tout.
J'ai entendu le slogan aussi un peu négatif.
Aujourd'hui, non.
Et donc, ça fait bien plus mal que prévu, la macronite aiguë. Ils se font gronder par tous les citoyens lambda, comme ça, gratos, dans la rue, alors que... Les mecs, ils veulent juste détruire le code du travail pendant qu'on sera à la plage.
Nous faire bosser jusqu'à 67 ans.
Il n'y a vraiment pas de place pour les auto-entrepreneurs de la politique dans ce pays de syndicalistes gueulards qui veulent de toute façon rien foutre le dimanche. On l'a déjà bien vu tout à l'heure.
Ni le lundi. Hein.
Bref, les temps sont durs pour les macronistes. Ces grands incompris du game politique qui se font repeindre leur vitrine malencontreusement les vendredis soirs. Désolé, Brubru. Et on souhaite beaucoup de courage pour les
jusqu'à présent, regardez la télé, tout allait bien pour eux, puis d'un coup il se passe des trucs dehors et puis ça va plus.
Puis on espère que c'est que le début de leur problème quand même, parce que
ils se sont très malheureux. Et exactement, continuons le combat.
Voilà. Alors oui, oui, le 1er mai, c'est le printemps, les oiseaux qui gazouillent, les fleurs qui sortent et la sève qui monte, débourrant les arbres flétris, appelant le rut général du cosmos où toute la création, incitée par les allocations familiales et les congés parentaux, décide de se reproduire et de forniquer avec plus ou moins d'élégance. Et au cœur de ce printemps, le joli mois de mai, le mois rouge et noir, ah, le 1er mai, c'est la seule date du calendrier qui doit nous réjouir, le seul jour férié qui mérite d'être étendu aux 364 autres. C'est notre Noël, le jour où nous défilons en famille et si l'on peut faire un peu la fête au son des clochettes du muguet, il est quand même nécessaire de repréciser deux ou trois fondamentaux concernant ce point d'histoire et de culture populaire pour ce qu'il en reste. Pour ce faire, nous vous conseillons un bon article sur Rebellion qui s'intitule « Aux origines du 1er mai », duquel nous avons tiré cette excellente citation de Makhno, un révolutionnaire anarchiste internationaliste ukrainien qui nous parle en 1928 du 1er mai et c'est toujours d'actualité. Et puis après, on ira passer un petit reportage audio où on a donné la parole aux manifestants. Alors Makhno écrit en 1928 « La journée du 1er mai est considérée dans le monde socialiste comme la fête du travail. C'est une fausse définition du 1er mai qui a tellement pénétré la vie des travailleurs qu'effectivement, dans beaucoup de pays, ils le célèbrent ainsi. En fait, le 1er mai n'est pas un jour de fête pour les travailleurs. Non, les travailleurs ne doivent pas ce jour-là rester dans leurs ateliers ou dans les champs. Ce jour-là, les travailleurs de tout pays doivent se réunir dans chaque village, dans chaque ville, pour organiser des réunions de masse. Non pour fêter ce jour ainsi que le conçoivent les socialistes étatistes et en particulier les partisans de Hollande et de Macron, mais pour faire le coup
en 28,
mais pour faire le compte de leurs forces, pour déterminer les possibilités de lutte directe contre l'ordre pourri, lâche, esclavagiste, fondé sur la violence et le mensonge. En ce jour historique déjà institué, il est plus facile à tous les travailleurs de se rassembler et plus commode de manifester leur volonté collective, ainsi que de discuter en commun de tout ce qui concerne les questions essentielles du présent et de l'avenir. Il y a plus de 40 ans, hein, c'est en 1886 l'événement dont il parle, les travailleurs américains de Chicago et des environs se rassemblaient le 1er mai. Ils écoutèrent là des discours de nombreux orateurs socialistes et plus particulièrement ceux des orateurs anarchistes, car ils assimilaient parfaitement les idées libertaires et se mettaient franchement du côté des anarchistes. Les travailleurs américains tentèrent ce jour-là, en s'organisant, d'exprimer leur protestation contre l'infâme ordre de l'État et du capital des possédants. C'est sur cela qu'interviennent les libertaires américains Spice, Paulson et d'autres. C'est alors que ce meeting fut interrompu par des provocations de mercenaires du capital et s'acheva par le massacre de travailleurs désarmés.
Emmanuel Macron ?
Suivi de l'arrestation et de l'assassinat
Laurent Berger,
Parson et d'autres camarades. Les travailleurs de Chicago et des environs ne se rassemblaient pas pour fêter la journée du 1er mai. Ils s'étaient rassemblés pour résoudre en commun les problèmes de leur vie et de leur lutte. Actuellement aussi, partout où les travailleurs se sont libérés de la tutelle de la bourgeoisie et de la social-démocratie liée à elle, ou bien tentent de le faire, ils considèrent le 1er mai comme l'occasion d'une rencontre pour s'occuper de leurs affaires directes et se préoccuper de leur émancipation. Ils expriment à travers ces aspirations leur solidarité, leur estime à l'égard de la mémoire des martyrs de Chicago. Ils sentent donc que cela ne peut être pour eux un jour de fête. Ainsi, le 1er mai, en dépit des affirmations des socialistes professionnels, tendent à le présenter comme la fête du travail. Ne peut pas l'être pour les travailleurs conscients. Le 1er mai, c'est le symbole d'une ère nouvelle dans la vie et la lutte des travailleurs. Une ère qui présente chaque année pour les travailleurs de nouvelles, de plus en plus difficiles et décisives batailles contre la bourgeoisie, pour la liberté et l'indépendance qui leur sont arrachées, pour leur idéal social. Merci Makhno, merci Rebellion. Et maintenant, on va écouter les camarades qui ont enregistré d'autres camarades.
Eh bien, bienvenue à tous les travailleurs et travailleuses! Encore une fois, pour le 1er mai, on est là!
C'est tout simplement la fête des travailleurs, normalement. Or, depuis, on a un petit peu perdu cet esprit, parce qu'il ne faut pas oublier que au moment où on a créé cette fête du 1er mai, c'était les travailleurs qui voulaient marquer un jour pour se reposer. Alors que maintenant, au fil des années, c'est devenu un jour où on manifeste son mécontentement. En gros, voilà.
Et pour vous, c'est synonyme de lutte ?
Ah, totalement. Totalement.
Vous êtes en lutte ?
Ah oui. Ah oui, 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 oui.
Le
le camp des travailleurs, c'est un camp qui est opposé à tous les candidats de tous les patrons. Et qu'il ne s'agit pas de choisir entre nos adversaires, mais de se défendre nous-mêmes. Et c'est aussi ça le sens de cette journée, c'est qu'il faudra que tous les travailleurs, partout dans le monde, on s'unisse pour se défendre nous-mêmes.
En trois mots,
c'est compliqué. Unité des travailleurs de tous les pays.
Solidarité, internationalisme et combat.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire en trois mots ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'être dans la rue ?
Solidarité, résistance et espoir. Là, ça me semblait très important d'y aller. Parce qu'on est entre deux tours et que justement, les élections, ça prend un tour qui ne nous plaît pas forcément. Et voilà, et on est là pour dire, pour soutenir et pour être avec, être ensemble. Quoi.
Moi, je suis parfaitement content de voir l'énorme rassemblement qui s'est effectué ici où on a vraiment des gens qui sont en plein dedans, en réaction, à la fois contre le gouvernement actuel, mais aussi celui qu'on va hériter dans 8 jours.
La fête des travailleurs, il me semblait qu'à la base c'était pour demander une augmentation de salaire. Après, moi je le fais par nécessité, parce que vu les coûts qu'on a aujourd'hui, les salaires ils augmentent pas, donc forcément on est obligé de travailler plus pour pouvoir avoir assez pour boucler le mois. Tout simplement.
Et du coup, si vous aviez pas travaillé, vous seriez allé manifester ?
Peut-être, ouais, éventuellement. Ouais, je pense. Surtout contre le Front National. C'est autre chose, mais voilà. Au moins pour ça.
J'en ai fait que deux de 1er mai, celui de 2002 et celui d'aujourd'hui, à cause de l'arrivée de Le Pen au second tour. Voilà.
On a dit tristesse, inquiétude.
Inquiétude et solidarité.
Solidarité quand même.
Trois mots, s'il vous plaît.
Misère, pas de boulot, gouverné par les entreprises.
Vous faites souvent le 1er mai, la manifestation du 1er mai.
Oui, je fais ça dans tout le monde parce que je suis pas français, je suis syrien,
ouais.
Je suis réfugié. Et quand j'étais en Syrie, quand j'étais au Liban, quand j'étais en Jordanie, quand j'étais en Irak, je faisais ça. 1er mai, c'est partout dans le monde.
C'est sûr que c'est une journée qui a une valeur universaliste. Donc c'est clair qu'elle va au-delà de la simple frontière de la France.
Voilà. 1er mai est né aux États-Unis quand même, hein, puisqu'il y a eu des ouvriers qui ont manifesté, qui sont faits quand même exécuter par rapport à ça. Donc forcément, c'est une valeur internationale en plus.
Révolte, révolution et redistribution des richesses.
Voilà, c'était quelques témoignages de la manifestation à Lyon aujourd'hui, 1er mai. Donc, selon nous, on était à peu près 8000 aujourd'hui, donc c'est un peu plus que l'an dernier, à manifester d'abord de Jean Massé à Bellecour. Même si l'ambiance était plutôt conviviale et à la lutte et à l'espoir au rassemblement, voilà, on a entendu aussi quelques inquiétudes. À noter que, contrairement à 2002, les syndicats n'ont pas appelé à une manifestation unitaire puisque la CFDT a fait bande à part. Après tous les cortèges FO en tête, CGT, FSU, Solidaire, la CNT et tous les autonomes, il a fallu traverser quelque chose qui ressemblait un peu à No Man's Land sur la fin de la manif, donc entre Jean Massé et il fallait passer sous les deux rails de chemin de fer pour voir apparaître les drapeaux de la CFDT. La CFDT ayant soutenu la loi travail et appelant à voter Macron,
a été relégué à l'arrière, les autres manifestants
et
ne souhaitant pas...
par les riverains.
Ils nous ont pas manqué en tout cas.
Ils ont bien fait de se mettre loin parce que.
Voilà. Non.
Et toi, depuis que t'es chaviste, ouais, t'as vachement changé.
J'aurais bien aimé avoir la CFDT pas loin, mais bon.
En tout cas, il était clair qu'ils n'allaient pas se mélanger aux autres. Ils ne l'ont pas fait. Et cela dit, ils n'étaient pas très très nombreux, puisqu'en gros, le gros des troupes CFDT tenait sous le pont derrière la place Jean Massé. Donc, une fois arrivés à Bellecour, les groupes libertaires ont continué la manifestation traditionnellement jusqu'à la place Satonné pour un petit verre et un buffet offert par Radio Canu,
la plus rebelle des radios.
Au 102.2.
Merci.
Alors ça s'est toutefois pas super bien terminé pour tout le monde, puisque d'après ce qu'on sait au jour à 7h, il y a eu 3 arrestations aux abords de la place au motif de vitrines qui auraient été redécorées à Saint-Jean. Voilà, on n'a pas plus d'infos pour le moment.
Un soutien, en fait, une manifestation de soutien a eu lieu à Marius Berlier, en soutien aux camarades donc, qui ont été interpellés. On attend les infos, si on en a, d'ici là, on vous les donnera. Quoi.
Eh bien, voilà. On pourrait dire aussi renseignez-vous sur ce qui s'est passé dans les autres villes. Hein. Il y a eu des grosses manifestations, malgré tout, malgré ce qu'on pouvait penser, ou en tout cas, il y a eu des manifs. Il y a eu de la répression aussi, mais il y a eu des belles choses ailleurs. Un peu partout, c'est une réalité. La CFDT, c'est, entre guillemets, désolidarisée, mais c'était réciproque de l'intersyndicale. Et tant mieux, puisque la CFDT, ça fait bien longtemps qu'ils sont vraiment plus de notre côté. Et donc, c'est une bonne chose.
Oui, la CFDT, c'est des traîtres et ils n'ont plus rien à faire au cortège du 1er mai.
Parce qu'avant, ils avaient quelque chose à y faire.
Vous parlez
du moment où ils ont travaillé pour les retraites.
Alors, s'ils ne sont pas partis en tant que tout le monde, c'est parce qu'on les aurait vus.
Oh, à la fois, on n'entend rien.
Excusez-nous, la CGT, la CFDT, ça nous enflamme un petit peu.
Visiblement, leur seule place, c'est aux côtés de Macron dans le gouvernement.
Plein de peintures.
Et la CFDT, c'est des traîtres et le chapitre.
C'est quand même les héritiers en plus de François Hollande, d'après.
Il a dit que son héritier principal, même avant Emmanuel Macron, c'était Laurent Berger, François Hollande.
Qui vient de se gosser quand même pendant 2 semaines qu'il avait fait une super étude sur 200 000 Français et que ce qu'il en retenait, c'est que 77% des Français aimaient leur travail.
Donc n'hésitez pas à rester sous votre pont très très loin de nous pendant les mêmes.
Montez au-dessus et puis.
Non.
Pourquoi pas?
Il y a litige.
Voilà, on va.
Oui, on vit dans un pays libre, chacun fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais le débat n'est pas là.
Pour revenir un petit peu sur ce
qui s'est
passé.
Non, on vit pas dans un pays libre, justement, ça c'est la base.
Pour ce qui s'est passé un petit peu partout en France, ça a chauffé particulièrement à Paris aujourd'hui. Nous, quand on a pris l'antenne, c'était encore en cours dans les rues de Paris. Donc, vraisemblablement, la répression va être sévère, d'autant qu'il y a eu 4 policiers qui sont cassés des ongles, je crois. Et du coup, je pense que ça va être un peu vénère du côté de Paris. Donc voilà, on pense aux copains qui sont peut-être encore dans les rues alors qu'il est.
C'est ça. Il y a une petite annonce aussi d'une camarade qui voulait absolument qu'on précise, vu que c'est quand même un Radio Canu folklorique, que le muguet n'est pas du tout.
Ah oui, merci,
n'est pas
s'il
du
te
tout,
plaît, ouais.
N'est pas du tout.
Ça ne rappelait pas du tout, mais bon.
N'est pas du tout le symbole mais évident du 1er mai. Puisque
c'est
ça voilà, c'est l'églantine. On rappelle que le muguet, c'est blanc, comme la monarchie française ou la capitulation.
Hey.
Et que l'églantine, parfois appelée gratte-cul, est-elle rouge.
Et c'était le symbole du
sang versé.
Du sang versé après manifestation réprimée dans le nord de la France à la fin du 19e siècle.
À Fourmies, en 1891.
Et une dame qui s'est fait tuer par la police.
Et on a aussi appris que ce fameux muguet blanc est aussi très toxique. Ça, on l'a appris d'une scientifique, aujourd'hui une herboriste.
Voilà. Arrêtez d'en acheter,
donc,
quoi, c'est chiant.
Voilà. Et du coup, on soupçonne la bourgeoisie d'avoir introduit le muguet dans le cortège du 1er mai pour intoxiquer tous les les travailleurs. Et donc, du coup, encore une fois, cette bourgeoisie de merde.
C'est pas les bourgeoisies, c'est le retour des royalistes, on n'en dit pas assez.
Donc on invite tous les camarades. Exactement. L'année prochaine.
C'est le muguet, c'était, ça fait référence à Charles IX, au XVIe siècle, qui avait offert des muguets à toutes les dames de la cour.
Donc, ah, bah nous voilà invitons, donc c'est bien l'aristocratie.
Mais oui. Les camarades à vendre des bouquets d'églantines.
D'églantines, voilà.
Rouge.
Ouais. Et bien sec, ça fait du super poil à gratter. Vous pouvez l'envoyer sur tous vos copains et même surtout ceux que vous aimez pas. C'est et super
même,
efficace.
Et même de la confiture honnête et un petit apéritif.
Bien cuisiné. Sympa. Ouais, non. Mais donc après cette magnifique émission anti-royaliste, donc on va faire l'agenda.
On a l'agenda. Ah oui, l'agenda.
Je suis parti pour une rubrique culinaire là. Comment faire de la goutte avec non.
L'agenda.
Donc l'agenda cette semaine, bah écoutez, vu que lundi c'était 1er mai, bah mardi on continue.
Ce sera
donc
2 mai.
On t'entend pas. Attention, on avance, c'est bien.
Non, mais parce que l'an dernier on a galéré avec